Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. De retour.
De retour après Pessah.
Après Pessah, voilà. Fini. La dernière fois, j'ai fait entendre différents Hadgadia en ton absence. Plus beaux les uns que les autres. Du moins, j'espère que nos auditeurs ont apprécié. Et ça y est, c'est fini alors. Pessah, on est dans l'Omer.
Pessah est fini, on est dans l'Omer. On ne va pas tout de suite parler de Shavuot. Même s'il y a des textes sur l'Agba Omer. C'est vrai, il y a des textes sur l'Agba Omer. Mais bon, je crois qu'on en avait déjà lu. Non, là, je voulais présenter le livre de Madame Cassisner Matron, qui est consacré à Israël, Yehoshua Zinger, qui s'appelle un écrivain yiddish, Israël Yehoshua Zinger, Déplier le temps. Mais en fait, je voulais présenter la partie où elle parle des frères Ashkenazi. Et je me suis dit que dans un premier temps, j'allais peut-être présenter ce livre pour que les auditeurs sachent un peu de quoi il s'agit. Donc, Israël Yehoshua Zinger est le frère aîné de Isaac Bashevis Zinger, qui est devenu beaucoup plus célèbre que lui. Mais c'est un écrivain très important qui a toujours écrit en yiddish et uniquement en yiddish et qui a été beaucoup moins traduit que son frère.
Surtout qu'il n'a pas eu la bonne idée de se traduire lui-même.
Oui, et qui est aussi décédé tôt. Hein. Donc, il est né en 1893. Donc, il est né une bonne dizaine d'années avant son frère. Il n'est pas l'aîné de la famille, puisqu'il y a avant lui Esther, Esther Zinger, qui va devenir Esther Kreitman et qui va également devenir un écrivain. C'est quelqu'un qui était très tôt un rationaliste, qui a très tôt rejeté la religion et qui a vu tous les défauts, on peut dire, et l'étroitesse d'esprit de tout ce milieu rabbinique. Et il s'est lancé dans le journalisme et la littérature. Il a commencé à écrire très tôt et il a écrit donc une œuvre importante, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Il a très vite eu l'impression qu'il fallait partir d'Europe, que la vie des Juifs n'était plus vivable en Europe. Et il est parti aux États-Unis en 1934. Il s'est vraiment démené pour faire venir son frère. Il lui a bien sûr sauvé la vie, comme cela, hein, puisque ensuite il y a eu bien sûr la Shoah. Donc, Bashevis Zinger est venu un an après, il est venu en 1935. Et il est mort à New York, prématurément, d'une crise cardiaque en 1944, pendant qu'il était en train d'écrire son autobiographie. Les Frères Ashkenazi, c'est un grand roman écrit, publié en 1936, qui a été vite traduit. D'ailleurs, dans la présentation, c'est Marie Brunet-Spear qui traduit, mais qui traduit à partir de l'anglais, alors que, Israël Yehoshua n'a jamais interdit qu'on traduise à partir du yiddish, mais bon, elle a traduit à partir de l'anglais. Donc, elle écrit deux romans parus aux États-Unis qui se retrouvèrent très vite côte à côte sur toutes les listes de best-sellers. Et là, c'était Autant d'emporte le vent et l'autre, Les Frères Ashkenazi. Voilà, comparé par la critique à l'époque à Tolstoï, Dickens et Balzac. Voilà, donc, mais c'est pas faux, hein, je veux dire. Alors, je ne sais pas si effectivement il a eu un tel succès. Donc, l'édition originale en yiddish est de 37. 80, c'est l'édition en anglais. Et non, ça a dû être traduit beaucoup plus vite, hein, puisqu'ils disent que ça a eu tellement de succès. Donc, ça a dû être traduit plus vite en anglais. Mais par contre, en français, ça a été traduit en 82. Hein. Donc, certainement avec des manques, des passages qui sont sautés, mais bon, c'est toujours, mieux que rien. D'autant plus que c'est vraiment un roman classique, un grand roman, une grande fresque. Effectivement, comme les grands romans allemands ou les grands romans russe que Israël Yeshua connaissait bien sûr très très bien. Et donc ça décrit, il y a à la fois, on peut parler d'une fraise, d'une saga, d'une épopée, qui mélange la grande histoire et l'histoire familiale, l'histoire de deux frères, dont l'un s'appelle Jacob et l'autre Simcha. Ils vont tous les deux changer leur nom, les rendre moins juifs, si je peux dire. Donc Yaakov va changer en Yacoub, qui est la version polonaise, et Simcha va carrément changer en Max, avec un son beaucoup plus allemand, plus germanique. Voilà, donc ces deux frères, deux jumeaux, comme évidemment Jacob et Ésaü, on fait tout de suite la relation, ces deux frères vont mener des vies parallèles avec autour d'eux toute une fratrie, tout un groupe de gens, leurs épouses, leurs enfants. En même temps est décrit la vie juive avec malheureusement beaucoup de pogroms, la guerre de 14 qui se termine par l'autonomie de la Pologne. Voilà, donc une grande fresque générale de... Et en même temps, le destin de ces deux frères se mêle au destin de la ville de Lodz. Alors, Lodz en yiddish, Łódź en polonais. Donc, c'est une ville qui, effectivement, a poussé comme un champignon au XIXe siècle parce que c'est devenu une ville de tisserands, une ville de textiles, et qu'il décrit très, très bien. Et ensuite, il dit qu'elle décrit un déclin, et même un déclin quasiment total de Lodz. Je pense que ça, c'est moins historique, parce que... Alors, c'est peut-être lié à la guerre... à la crise de 29. En tout cas, ça se termine par non seulement la mort des deux frères, mais la mort de la ville, on peut dire. Il ne donne aucune date. Il n'y a aucune date, donc c'est au lecteur d'essayer de situer les événements dans l'histoire qu'il connaît. Bon, bien sûr, on connaît la guerre de 14, mais il y a d'autres événements qui sont moins clairs. Mais je vais vous lire peut-être le tout début. Donc c'est la création, on peut dire, presque de Lodz. Le long des routes sableuses qui mènent de Saxe et de Silésie en Pologne, une étrange procession de véhicules, de gens, d'objets et d'animaux se déployait à travers champs et forêts, villes et villages dévastés, rasés par les guerres napoléoniennes. Donc là, on est plutôt au début du 19e. Les serfs polonais, la main en visière sur leurs yeux pâles, s'arrêtèrent de labourer pour regarder le spectacle. Leurs femmes, des fichus rejetés en arrière, s'appuyèrent sur des houes. De mémoire de Polonais, on n'avait jamais vu rien de pareil. Ce n'étaient pas les carrosses de la noblesse, les longues voitures à claire-voie des paysans ou celles des charretiers juifs surmontés d'une bâche. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait des tisserands allemands qui viennent et qui viennent s'installer à Lodz pour tisser. Donc, dans cette procession, tous, riches et pauvres, bien nourris et faméliques, transportaient un même objet, un métier à tisser en bois poli. Voilà, donc là, il y a une croissance absolument extraordinaire de cette ville. Et avec, Zinger décrit très bien toutes les relations entre les patrons et les ouvriers, combien les ouvriers se font exploiter par leurs patrons. Et donc, je vais vous lire un passage. Alors là, il s'agit d'un Allemand qui s'appelle le baron Hunze, qui a lui-même aussi de grandes entreprises de textiles. Certes, le baron Hunze aurait pu réduire son train de vie, économiser ainsi des dizaines de milliers de roubles par an sans se donner le moindre mal. Mais la seule source d'économie était la main-d'œuvre. Certes, les salaires ne constituaient pas la majeure partie des dépenses, mais il y avait tant d'ouvriers, des milliers, que les sommes économisées seraient énormes. Les pertes seraient épongées en un an. Les mécontents étaient libres de s'en aller, la main-d'œuvre ne manquerait pas. Il se présentait tous les jours à Lodz des hordes de paysans et de paysannes qui seraient heureux de travailler pour quelques sous et surtout des jeunes filles bien aussi capables que les hommes. Les métiers à tisser automatisés où il n'y avait que des leviers à manier, se suffirait bien de mains de femmes. Oui, on est aussi dans l'industrialisation, hein, c'est-à-dire on passe de métiers à main à des métiers automatiques. Hein. En outre, les filles de la campagne étaient soumises, ne buvaient pas et étaient consciencieuses. Le lendemain, Albrecht, donc c'est le contremaître, donna l'ordre de renvoyer autant d'ouvriers que possible et de les remplacer par des filles jeunes de préférence. Puis il décréta une réduction de salaire de 15%. Le jour suivant, les nouvelles dispositions furent appliquées. De plus en plus d'ouvriers licenciés firent place à des paysannes en fichu à fleurs, payés un tiers de ce que touchaient les hommes. De longues files d'hommes, de paysans polonais pour la plupart, attendirent leur dernière paye devant la fenêtre du comptable en tapotant impatiemment leur casquette bleue. Les ouvrières affluaient, lui procurant à lui et à son directeur un admirable choix. Elles revenaient invariablement de chez Albrecht avec des bleus sur le cou et les bras et une robe ou un rouble en cadeau. Voilà, donc là, c'est effectivement aussi l'exploitation sexuelle hein, de ces femmes. Singer est assez féministe, hein, il décrit vraiment bien le sort des femmes, que ce soit d'ailleurs les femmes juives, hein, que ces pauvres ouvrières qui sont prêtes, on peut dire vraiment à tout, pour gagner un peu d'argent. Alors on va peut-être illustrer ça par une chanson.
Oui, par mon CD enregistré en 2000, qui est consacré aux femmes. C'était déjà une période très féministe. Je vais lire peut-être une espèce de introduction que j'ai écrite pour expliquer pourquoi c'est le sort des femmes en yiddish qui m'a tellement intéressée. La chanson yiddish, un continent. J'ai risqué une promenade dans cet univers coloré et multiple. J'ai cherché la femme, j'en ai trouvé plusieurs. J'ai trouvé la jeune fille blessée et fière, l'éperdue d'amour, celle qui se confie à sa mère, celle qui n'a pas à qui se confier, celle qui désire ardemment se marier, celle qui restera jeune fille, puis vieille fille, celle qui aime, celle qui est aimée, celle qui se marie, celle que sa mère recommande à sa future belle-mère, celle qui est mariée et découvre les déceptions du mariage. J'ai trouvé la mère juive sans avoir eu besoin de la chercher. J'ai trouvé la femme au travail, le plus souvent couturière, accablée d'aiguilles hostiles, les yeux aveuglés de fatigue, les doigts en sang, quelquefois servante, toujours en attente de la délivrance par ce mariage tant convoité. Je l'ai trouvée aussi militante et révoltée. Je l'ai trouvée dans les situations les plus dramatiques, combattante désespérée de la dernière heure. J'ai dû attendre longtemps avant de trouver la femme écrivain, la femme poète, la femme compositeur. Elle l'est aujourd'hui et pour toujours. Mais plus en yiddish. Bon, c'est un petit peu désespéré. En 2000, ce que j'écris, maintenant, il y a quand même à nouveau, on peut dire, bon, ça reste tout à fait secondaire, mais des femmes qui écrivent en yiddish. J'ai pleuré sur sa vie triste et dure, sur ses souffrances, sur sa pauvreté, sur sa solitude, sur son dévouement à ses enfants. Et j'ai compris pourquoi dans le rituel religieux, chaque jour, l'homme remercie Dieu de ne pas l'avoir fait femme. Je me suis consolée en pensant qu'au moins, elle disposait de centaines de chansons aux mélodies immédiates qui lui permettaient de dire son désir désenchanté, ses peines et ses lueurs de joie. Parce qu'une fois dite et chantée, la douleur est moins terrible. Alors j'ai décidé de chanter avec elle et pour elle ces témoignages vivants d'une vie révolue, mais dont les échos nous parlent si fort. Parce que la chanson, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est vrai, ça, c'est quand même ce qui reste. Des fois, pas tout le texte, mais en tout cas la mélodie. Donc, pour illustrer plus précisément là, l'histoire de ces pauvres femmes qui travaillent. Mais bon, elle travaillait à la machine déjà, hein, ça parle de la mécanisation. Moi, je vais faire entendre là une chanson qui parle quand même encore de ce temps un petit peu antérieur où les femmes cousent et cousent et cousent, mais à la main. Donc, ça s'appelle Die drei Nähterins. C'est à partir d'un texte de Peretz, Isra Kleibusch Peretz. Et j'ai pas besoin de vous traduire parce que ça, j'ai rarement fait ça dans mes enregistrements, mais là, c'est une chanson où je mêle le français au yiddish. Voilà.
Die Augen rollt, die Lippen blau, kein Tropfen Blut im Bad nicht da. Der Stern blass bedeckt mit Schweiß, der Atem abgehackt und heiß. Es sitzen drei Mädels und
La première dit « Je couds de jour, je couds de nuit, sans dormir, sans manger, mais ce n'est pas ma robe de mariée. Vais-je me décider à épouser un veuf déjà vieux et chargé d'enfants.
Die Nödel blank, die leiven Schnee, und neine Tracht, ich nee und nee, ich nee bei Tag, ich nee bei Nacht, kein Chuppe Kleid sich nicht gemacht, wo es kommt, der Reise sich nee. Nicht ihr Schlaf und nicht ihr Ess, ich will gegeben, auf mehr bei Ness, öfter wollte er sich gemiet, an allmen Chosch, an alte Jied, mit kinderlacher Schock.
La deuxième dit, je couds et je reprise, la tête me brûle, et la machine martèle dans mes oreilles. Ta, ta, ta. Je comprends pourquoi il me fait des sourires, celui-là. Mais sans bague et sans roupa, l'amour ne durera pas.
Die zweite Tracht, ich nähe und stepp mir aus nach Reuezepp. Der Kopf erbrennt, die Schleif sie hackt. Und die Maschine klappt zu zum Takt. Da, 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 da. Ich versteh doch jenem Spink. Ohne Hupe, ohne Ring. Wollt gewinn, a Spiel, a Tanz. A Liebe, auf a Jura ganz. Nur der, nur der.
La troisième crache le sang et chante. Je couds à en perdre la vue, je couds à en perdre la santé. Et celui que j'aime se marie demain, je ne lui souhaite aucun mal. Pour moi, un linceul et un morceau de terre pour pouvoir me reposer et dormir, dormir.
Die dritte Spalt mit Blut und singt. Ich nehm mich krank, ich nehm mich blind. Es wiegt die Brust bei jedem Stach und er hat Rassen an die Wach. Ich wünsch ihm nicht kein Schlechtes. Et vergessen, was am Ohr der Krieg im Wett mir geben kann.
Voilà le sort de ces pauvres ouvrières, qu'elles soient juives ou pas juives d'ailleurs. Alors là, je vais lire un passage qui concerne la révolte des ouvriers, hein, puisque bon, bien sûr, ces ouvriers sont très 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 opprimés et mal payés, hein, comme on l'a vu. Voilà. Donc voilà un passage là-dessus. Les ouvriers de Lod s'arrêtèrent de travailler pour manifester, non pas le 1er mai comme les révolutionnaires l'avaient prévu, ni même le 3 mai. Fête nationale des patriotes polonais, mais le 5 mai, qui était un jour très ordinaire. Après une paralysie quasi totale de près d'un an, les usines avaient repris leur rythme normal. Mais, voulant rattraper leur manque à gagner, les industriels diminuèrent les salaires des ouvriers de 10%. Exaspérés par cette longue période de privation, couverts de dettes, excités par la propagande des révolutionnaires et des groupes clandestins de patriotes polonais, les ouvrières refusèrent la diminution de salaire et se mirent en grève. Tous n'arrêtèrent pas le travail. Lorsque les grévistes furent à court d'arguments convaincants, ils en vinrent aux mains. Armés de bâtons et de pieux, ils prirent d'assaut les usines. Des ateliers de tissage, les grévistes passèrent aux salles des chaudières, où les chauffeurs eurent toutes les peines du monde à les empêcher de tout casser pour ne pas faire sauter l'usine et eux-mêmes avec. Tisserands, fileurs, chauffeurs, cochers et couturières, la tête couverte d'un fichu, défilèrent en chantant des chants révolutionnaires et patriotiques, accompagnés des inévitables badauds, et sympathisants. Ils allèrent d'usine en usine, forçant les ouvriers à cesser le travail. Patron et contremaître, beau faire fermer les portes, la foule pénétra de force. On entendit crier « Mort au patron, mort au vampire, affameur du peuple !» Terrifiés, les petits employeurs juifs cédèrent aussitôt et rétablirent les salaires, mais les patrons d'usines plus importants ne capitulèrent pas. Donc là, il y a une scène avec les ouvriers de l'usine Hunse, donc c'est cette usine qu'on avait vue déjà avant où on a renvoyé les ouvriers hommes pour embaucher des femmes. Et donc, il y a on fait tirer sur la foule et finalement, cela se change en un pogrom. Soudainement, la foule changea d'humeur. « À bas les Juifs, mort aux Juifs !» Les meneurs marchèrent sur Balout. Donc Balout, c'est le quartier juif. « Défonçons leurs boutiques, ça leur donnera une leçon. » Et donc, effectivement, il y a une attaque du quartier juif, une attaque violente, pendant que les policiers se gardent bien d'intervenir. Et donc, à la fin, on arrête les meneurs, mais ils ont déjà fait beaucoup de dégâts dans le quartier juif. Les boutiques juives rouvrirent l'une après l'autre. Les vitrières remplacèrent les vitres cassées. Les confréries du dernier devoir enterrèrent les cadavres. Les médecins pansèrent les blessés. Le grand rabbin proclama un jour de jeûne. Et dans les oratoires, des juifs très pâles récitèrent les prières des jours de jeûne. Les ouvriers non-juifs, domptés et abattus, se pressaient aux portes des usines et imploraient la tête basse qu'on les réembauchât à n'importe quel prix. Les directeurs les reprirent, non sans réduire les salaires, comme ils l'entendaient. À nouveau, les cheminées crachèrent leurs colonnes de fumée vers le ciel, polluant l'atmosphère comme avant. Les sirènes déchirèrent le matin, les machines se remirent à gronder. Et donc, en commémoration, il y a une chanson qu'ont composée les Juifs. « Écoutez, bonnes gens, écoutez ce qui à Lod s'est passé au premier jour d'Iyar. Les goyims rassemblés sont descendus nous piller. » Comme autant de chiens enragés, les ouvriers ont arraché, dépecé, brûlé, tué, malheur à ceux qui les ont rencontrés. Seigneur, toi dont la miséricorde est infinie, sache que tes agneaux n'ont jamais de répit. Étends sur nous ta puissante main, ramène-nous sur notre terre, enfin. Voilà, donc on voit bien comment Singer est extrêmement pessimiste. Et alors, ce qui est, un peu amusant, c'est qu'il dit qu'il écrit une littérature de divertissement. Or, tout ce qu'il décrit est absolument tragique. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'a aucune idéologie. C'est-à-dire, c'est quand même l'époque des grandes idéologies, en particulier communistes, et qui vont aboutir à la révolution russe, bien sûr. Et lui n'est pas du tout là-dedans. Il y a un de ses héros qui s'appelle Nissan, qui est un révolutionnaire, mais lui-même n'y a jamais cru et il n'a cru qu'à la littérature, à la description des choses, mais pas, il ne croit pas à une littérature engagée et militante.
Donc ça, c'est avant la guerre de 14.
Là, c'est juste avant. Oui, la guerre va éclater un peu après. Voilà, c'est
1910, 1908.
Oui, on s'approche de la guerre. Bon, comme il ne donne pas de date, oui, on est juste avant la guerre. Oui, alors la crise à laquelle il fait allusion, on ne sait pas laquelle c'est. Donc, c'est bon, il y a sans doute tout le temps des crises et après, les choses s'arrangent de nouveau. Voilà, donc, c'est... Oui.
Alors, moi, j'ai une chanson de militante de femmes, puisque tout ce CD est consacré aux femmes. Une chanson révolutionnaire dans un yiddish germanisant influencé par les textes idéologiques allemands de l'époque. Donc, sur un texte de Edelstadt, qui est antérieur à ça, parce que ces dates, il est mort très jeune, c'est 1870-1892 cet auteur. Donc, c'est antérieur. Donc, c'est sur la lutte des femmes. Femmes qui travaillaient, femmes qui souffraient, femmes malheureuses à l'usine ou au foyer. Pourquoi restez-vous à l'écart? Pourquoi ne pas aider à construire le temple du bonheur humain, de la liberté? Le drapeau rouge, aidez-nous à le porter. En avant, à travers la tempête, à travers la nuit sombre. Aidez-nous à répandre la lumière et la vérité parmi les esclaves vivant dans l'ignorance et dans l'ombre. Aidez-nous à laver le monde de sa saleté. Sacrifions sans regret tout ce que nous aimons. Combattons tous ensemble comme de puissants lions pour nos principes, pour la liberté, pour l'égalité. Plus d'une fois, des femmes décidées ont fait trembler rois et bourreaux. Elles ont montré qu'on peut leur confier, dans la pire tourmente, le Saint-Drapeau.
Alors voilà de la littérature militante.
Ça, c'est militant, par contre, ce n'est pas du Israël Joshua Zing. Donc, pardon, Arbatar Freuen.
Voilà, et on vous dit déjà Shalom Aleichem, à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, merci Thomas.
Arbatar Freuen, leidende Freuen, Freuen, was schmachten in Haus und Fabrik, was steht ihr von Weiden, was helft ihr nicht Beuen, dem Tempel von Freiheit, von menschlichen Glück, helft und trugen dem Banner, dem Reuten, Sturm durch finstere Nacht, helft uns Wahrheit und Licht zu verspreiten zwischen umwissende ältene Knecht. Helft uns die Welt nicht Schmutz erheben, alles opfern, was uns ist lieb, kämpfen zusammen mit mächtigem Leben, für Freiheit, für Gleichheit, für unser Prinzip. Vertrauen in bittersten Sturm die heilige Fahne. But you be did it for yam the bum 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 bum. Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Aïe, 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 aïe.